7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. La parole est à ceux qui veulent entreprendre aujourd'hui sur le continent africain, ce que nous avons baptisé les JPAG. Ça c'est entre nous, jeunes patrons de l'Afrique qui gagnent. Vous êtes jeune diplômé ou un peu plus expérimenté, vous avez des idées et un business plan pour votre continent, eh bien vous découvrez aussi les difficultés d'entreprendre. Donc c'est un coach qu'il vous faut. Bonjour Didier Akouété.
Bonjour Emmanuel.
Directeur général d'Afrique Search, vous passez chaque mois dans notre émission. Alors, soyons modestes, vous n'avez pas de baguette magique, pas encore.
Ah, je croyais.
Vous écoutez les jeunes parler de leurs projets et vous répondez à leurs questions, c'est déjà pas mal. Et souvent, vous leur permettez, je dirais, de réfléchir autrement à leur entreprise naissante.
Oui, effectivement. Si vous voulez, c'est toujours l'enthousiasme du porteur de projet qui, de temps à autre, oublie que le marché est un peu plus compliqué qu'il ne le pense. Donc, c'est bien de partager les expériences et leur donner le maximum
d'éléments pour réussir. Et d'où l'idée, au départ, de bien ficeler son business plan. Ça,
Emmanuel.
C'est le maître qui parle. J'ai fini par comprendre. En fin d'émission, justement, on aura le conseil business plan avec vous. Ce sera quoi le sujet aujourd'hui ?
On va parler un peu de communication, de stratégie de communication.
Important, et ça doit toujours figurer dans le business plan.
Idéalement.
Tomber, se relever, ne pas se décourager. C'est un peu les maîtres mots hein, pour l'entrepreneuriat et s'appuyer surtout sur les bonnes compétences. Vous nous appelez dès maintenant les voisins au 33 1 84 22 71 71. Et pour ceux qui ne sont pas encore prêts mais qui veulent passer dans la prochaine émission, vous nous contactez aussi via les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et puis on a même une adresse mail, 7milliards@rfi.fr. Camille Néron reçoit vos appels et vos projets. Les JPAG, vous transformez l'Afrique et il faut que le monde le sache. Alors, on démarre avec un premier projet et on a la chance d'avoir nos porteurs de projet qui sont dans le studio avec nous. Bonjour Fatou, bonjour Maguette.
Bonjour Emmanuel, bonjour Didier.
Bonjour Fatou, bonjour Maguette.
On est ravis de vous avoir, vous êtes de passage en France. Alors Fatou, vous avez un bac à Dakar, vous avez été jeune fille au pair à Londres, vous avez une licence en France, animation, gestion touristique à Grenoble. Vous avez été wedding planner, organisatrice de mariage en Bretagne, c'est
tout
ça ?
Tout à fait, à Belle-Île-en-Mer.
Ah, incroyable comme parcours. Hein.
Oui.
Et vous êtes rentrée à Dakar en fin 2015 pour vous marier et lancer votre business avec votre mari, ici présent, Maguette.
Il ne faut pas le dire.
Attendez, l'entreprise familiale, c'est quand même une valeur sûre, non ?
Ça dépend.
Si ah on s'entend bien.
En tout cas,
ça fait des sacrées discussions le soir en rentrant.
On a l'habitude de travailler ensemble depuis maintenant plus de 5 ans.
Ah oui,
à Belle-Île-en-Mer déjà.
Déjà, vous aviez commencé ensemble pour organiser des mariages, tous les deux.
C'est une vieille histoire.
Ouais. Voilà, d'accord.
On a travaillé dans l'hôtellerie ensemble où elle s'occupait des mariages et moi je m'occupais de la gestion de l'hôtel.
Ah ben voilà, formidable. Bon, déjà ça, hein, c'est... Fatou et Maguette, alors vous avez monté il y a 2 ans au Sénégal, à Dakar, un service de livraison plus location de véhicules avec chauffeur, ça s'appelle Car Rapide Prestige. Tout est parti d'un scooter au départ.
Oui, tout à fait. On avait un scooter, donc le T-Max. Nos amis avaient l'habitude de nous l'emprunter souvent. Donc on l'a baptisé le Car Rapide, comme les petits minibus dakarois qui sillonnent les artères de la ville. Et on voulait se lancer dans le transport. On n'avait pas encore l'idée innovante. Et puis là, le déclic s'est fait avec le Car Rapide. On s'est dit, pourquoi pas service express et chauffeur privé à Dakar avec les couleurs de Car Rapide.
Et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes ?
Donc aujourd'hui,
28 salariés,
c'est ça,
en 2 ans.
Salariés, effectivement, oui. En 2 ans, on a une flotte donc de scooters, véhicules utilitaires. Là, on va lancer les vélos électriques à la fin octobre.
Vélo électrique à Dakar.
Voilà, dans Dakar Plateau seulement, pour tester un peu ce que ça va donner avant de se lancer vraiment dans le reste
Marqué,
de
c'est pas mal avec les embouteillages, ouais.
Oui,
effectivement. Voilà, et donc
sur les vélos électriques, vous allez être les premiers.
Pour le moment, à Dakar, il n'y a pas encore des vélos électriques. Effectivement, on est les premiers là-dessus.
Donc c'est de la livraison par vélo électrique par exemple ou par scooter ou
alors,
c'est essentiellement
à ce jour,
ça
c'est uniquement par scooter et par véhicule, voiture utilitaire. Donc des petits scooters 125 si je ne me trompe pas.
Donc vos clients sont essentiellement des entreprises qui font appel à vous ?
Non, on a également les Dakarois qui appellent parce que nos services de livraison se prennent et par téléphone et directement sur notre site internet. Donc on est ouvert vraiment à tout type de clientèle qui souhaite se livrer dans Dakar avec un très bon service client. Et rapidement également.
Si pub, ouais. On va tester.
Donc,
attention.
Vous faites aussi des déplacements de VIP en hélicoptère. Donc ça, c'est pas tout de suite. Ça va être à partir de l'année prochaine.
Janvier 2018, voilà, ouais. Exactement.
Vous envisagez même de proposer des livraisons par drone pour les entreprises?
Là, on est sur le projet de réflexion. C'est,
je vois l'œil qui pétille de Didier à côté. Bon, alors attention, ne rêvons pas, vous n'êtes pas seul sur ce créneau tout de même de livraison, coursier, transport de personnes, prestige, etc.
Il y a du monde, il y a de la place. On est quand même sur 3 millions d'habitants sur Dakar, donc il y a de la clientèle. Et après, je pense que le combat, ça va se faire vraiment au niveau du service clientèle à Dakar.
Vous avez financé l'entreprise sur fonds propres et puis aide familiale aussi. Oui. Vous êtes deux, ça aide. L'entreprise est rentable ou pas pour le moment?
Oui, on va dire oui. Parce qu'on arrive quand même à faire les charges.
C'est monsieur qui tient les cordons de la bourse?
Oui.
C'est bien partagé comme ça, on ne se perd pas sur...
Oui, pour le moment, ça fait plus de 4 mois. On arrive quand même à faire les charges et à se faire un peu de bénéfices pour le moment. Nous ne faisons pas de salaire, c'est-à-dire moi et Fatou et le comptable, nous n'avons pas encore de salaire. Mais quand même, nous retombons.
Donc vous travaillez bénévolement pour votre entreprise?
Oui, exactement.
Dans un premier temps, c'est souvent comme ça. L'entrepreneur ne se paye pas.
Voilà. Ah, mais c'est quand bien de le préciser quand même, pour les jeunes qui rêvent.
Oui. Mais quand même, l'entreprise arrive, il y a 4 mois, on arrive quand même à faire toutes les charges.
Vos questions au coach Didier Akwété. C'est vous, Maguette, on vous laisse la parole.
Oui, comme aujourd'hui, dans le monde des affaires, c'est un peu difficile de trouver le financement. Aujourd'hui, par rapport aux besoins et que nous avons mis en place et le projet qu'on a envie vraiment d'étendre.
D'une entreprise qui est vraiment naissante, on va dire.
Oui, on va dire
ça
naissante.
Ça fait 2 ans, oui, c'est encore la phase de turbulence.
Voilà, c'est un bébé.
Oui, c'est encore un bébé, c'est un gros bébé même. Parce que nous avons quand même... ça a grandi plus vite que prévu. C'est-à-dire, voilà, on a beaucoup de clients et le problème qu'on a à ce jour, c'est quand même de pouvoir satisfaire la demande. Parce qu'à ce jour, nous avons beaucoup de demandes et voilà, nous cherchons un financement, on va dire aujourd'hui à 1 million d'euros, où vraiment nous n'avons pas envie de faire entrer, nous n'avons pas envie d'ouvrir le capital, mais de trouver un financement. Après, la question, c'est d'aujourd'hui, comment trouver un financement de 1 million d'euros
qui prenne pas de part dans le capital.
Voilà, sans ouvrir le capital.
Aujourd'hui,
qu'est-ce que vous en pensez de ce business déjà?
Non, mais c'est un très beau projet. Comme ils disent, il y a un marché, mais il y a aussi beaucoup de compétition. La compétition saine, la compétition malsaine, comme dans beaucoup de secteurs. Et c'est vrai, le service, la valeur ajoutée sont des éléments de différenciation. Aujourd'hui, vous avez combien de scooters et combien de véhicules? Et est-ce que le chiffre d'affaires, vous pouvez le donner à l'antenne ou pas, en fait? C'est par rapport à l'investissement à venir, en fait, que je pose ces questions.
Aujourd'hui,
combien de scooters et combien de...
18 scooters, sans compter les deux T-Max, qui ne roulent pas quand je ne suis pas là-bas. Nous avons deux 308, un utilitaire, une 508 et deux 4x4 qui arrivent.
Comment vous avez financé ces premiers investissements, en fait?
Quand nous avons travaillé à Belle-et-la-Mer, nous avons travaillé pendant 4 ans où nous avons vraiment pu économiser. Et puis, grâce à la famille, nous avons fait des emprunts à côté de la famille pour pouvoir vraiment mettre toutes ces choses en place. Et après, c'est au fur et à mesure qu'on tournait. À chaque fin du mois, on arrivait quand même à se débrouiller, à rajouter un scooter. Ou on se débrouillait de gauche à droite. C'était vraiment pas encore. Nous n'avons pas mis une comptabilité serrée. Nous n'avions pas mis les choses comme il le fallait. C'est-à-dire, on fonctionnait du mois au mois. Okay. C'est-à-dire, le mois est tombé. On avait un besoin. Il fallait que vraiment l'entreprise nous a contactés. Il lui fallait un scooter. On se débrouillait, je faisais tout. Moi, c'est le côté-là que je m'occupe. Quand une entreprise qui arrive, il faut trouver les financements. Je sors, je vais chercher et je ramène.
Et vous trouvez.
Pilotage à vue, quoi, vraiment. Ouais. Hein.
Oui, au fil de l'eau. Quoi.
Voilà, au fil de l'eau, voilà, exactement.
Non, c'est la croissance de l'entrepreneur qui voit le marché arriver. Et aujourd'hui, le million que vous cherchez, c'est pour financer les infrastructures. À quoi va servir ce million d'euros que vous recherchez?
C'est pour ajouter la flotte. On a besoin de rajouter donc des scooters, des utilitaires.
Donc grandir
on a
plus
besoin,
vite.
Voilà, exactement.
Hein,
on en a besoin également pour notre partie développement.
D'accord.
On a besoin parce que on veut pas uniquement s'arrêter à la livraison express en scooter. On veut vraiment voir grand et on a besoin de liquidité, de financement pour pouvoir nous-mêmes réfléchir et être posé, sans chercher à la fin du mois est-ce qu'on va faire les chiffres, est-ce qu'on va payer les salaires à temps. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de ce financement aujourd'hui.
Okay. Très bien. En fait, il y a deux niveaux dans le financement qu'on va rechercher. La partie investissement, donc l'acquisition de matériel, puis la partie trésorerie pour vous permettre de respirer lorsque l'activité ne tourne pas à son plein. La partie investissement, je crois qu'il faut pas que vous ayez peur en fait d'aller chercher un investisseur entre guillemets, Parce que l'investisseur, vous pouvez faire deux choses. Alors, soit une banque qui vient, ou ce qu'on appelle un organisme de crédit bail, qui vous finance l'investissement. Donc, c'est pas sur votre compte d'exploitation. Donc, lui, en fait, il achète le matériel, vous le met à disposition, et vous payez un loyer. Et au bout de certaines années, vous devenez propriétaire, si vous voulez, de ce matériel. Donc, ça vous évite de mobiliser de la ressource, de la dette, pour l'instant, pour financer cet investissement. Donc ça, c'est quelque chose auquel les entrepreneurs ne pensent pas souvent, mais le leasing est une bonne solution. Deuxième option, si vraiment vous ne trouvez pas de solution de leasing, mais vous êtes prêt à faire venir un investisseur, vous pouvez faire ce qu'on appelle créer une société qui fait de moyens. C'est-à-dire que cette société, vous allez mettre les infrastructures à l'intérieur. Donc si c'est les voitures, c'est les motos, cette société, l'investisseur qui vient, investi dans ce véhicule. Puis vous avez une société qui fait la gestion. Donc votre société actuelle, puisque vous avez fait l'investissement tout seul, peut servir de cette gestion dans laquelle l'investisseur ne rentre pas. Ce qui fait qu'en fait, vous payez simplement quelque chose au véhicule qui porte les infrastructures dans lequel l'investisseur est venu. Et demain, s'il y a un problème, il peut éventuellement repartir ou céder le matériel qui est dans ce véhicule. Donc, c'est aussi une réflexion si vous avez peur de faire entrer des investisseurs dans la structure mère.
C'est souvent le cas des jeunes qui lancent leur idée, pour qui ça marche et qui se disent non, on veut garder tout.
Oui, même pas que pour les jeunes. Vous savez, moi, je connais des entrepreneurs qui, au bout de 20, 30 ans, ne veulent pas faire entrer d'autres personnes
dans le tour de table. Parce que cette possibilité de compartimentage, finalement, est peu connue.
C'est peu exploité. C'est-à-dire les gens oublient souvent, lorsqu'il y a des infrastructures, qu'on peut créer un véhicule qui regroupe les infrastructures, qui est généralement plus facile pour trouver un investisseur, parce qu'il ne prend pas le risque sur la gestion.
D'accord.
Évidemment, c'est la gestion qui permet de payer entre guillemets ce véhicule,
non,
mais au moins ça vous évite
de
charger
la
barque.
Vous ne connaissiez pas ce type de montage
possible? Non, je ne connaissais pas. Le leasing, j'avais fait l'étude du leasing.
Ça revient parfois un peu plus cher, évidemment, l'option leasing pour augmenter sa flotte de véhicules, de voitures.
Oui, mais vous ne
financez
pas l'investissement parce que c'est lourd. Hein. Ouais. Si vous empruntez 1 million auprès d'une banque et qui vous fait un taux de, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ce qu'on voit souvent dans nos pays, 12%, c'est extrêmement coûteux à la fin.
Ouais, exactement. Bon,
vous faites l'étude par rapport. Et vous travaillez pour le banquier, finalement.
J'ai fait l'étude par rapport au leasing, mais le leasing, quand j'ai fait l'étude, ça me coûtait moins cher d'aller chercher un véhicule en Allemagne, de le mettre dans un conteneur, de le ramener chez moi et de l'utiliser, que de le prendre chez moi.
C'est l'idéal.
C'est-à-dire,
si vous avez les moyens de financer, effectivement.
C'était ça le plus dur. Je suis allé voir les sociétés de leasing, mais les véhicules me coûtaient un prix où je ne pouvais pas l'amortir. C'était impossible.
Ouais.
C'est-à-dire, j'allais travailler pendant 5 ans pour l'entreprise là, sans amortir. Je leur ai montré l'étude, je leur ai montré les différents devis que j'ai eu en Allemagne, que j'ai eu en France.
Bon, il y a des sociétés de leasing à monter,
c'était extraordinaire.
Pour faire jouer la concurrence.
Non, mais c'est vrai, mais c'est un moyen. Si vous n'avez pas les moyens de financer les véhicules que vous allez chercher en Allemagne et qu'une banque ne veut pas vous prêter, surtout à des taux parfois d'usure que vous n'allez jamais amortir, c'est une solution intermédiaire.
Ouais.
Le temps que votre exploitation monte vraiment en régime, et après, vous pouvez vous débarrasser.
Vous avez une deuxième question qui est très intéressante par rapport au statut juridique de l'entreprise. Pour l'instant, c'est une SARL.
Mm-hmm.
Et vous envisagez de changer et vous souhaitez avoir l'avis du coach.
Tout à fait.
Pour cette entreprise. Vous voulez, dans un futur, monter l'entreprise en groupe. Parce que comme l'idée que vous nous avez donnée, moi, je ne connaissais pas ça. Mais je pensais que quand j'allais monter un groupe, ça allait avoir différents compartiments. Si je ne veux pas avoir des personnes dans le capital, je peux les avoir dans différentes étapes. C'est-à-dire, j'aurais un groupe où il y aurait la livraison, il y aurait l'immobilier, il y aurait différentes choses. Et aujourd'hui, je ne serais pas lié à une seule personne. C'est-à-dire, je pourrais avoir différentes personnes qui sont là, qui sont liées au business, mais dans différentes étapes. Où je ne vais pas me sentir peut-être étouffé ou où je ne serais plus maître décisif.
Et puis, il y avait une autre question aussi sur le pays. Dans quel pays monter le groupe pour un maximum d'avantages? Vous parlez d'avantages fiscaux.
Tout avantage, en fait, parce qu'on n'a pas renseigné, on nous a parlé de l'île Maurice, on nous a parlé de Dubaï, en général,
ça s'appelle les avantages fiscaux. Les jeunes, ils veulent monter des entreprises qui ont toujours un petit côté social, mais en même temps, ils ne veulent pas payer les impôts dans les pays.
Les impôts sont très chers.
Oui, il ne faut pas travailler que pour l'État.
Ouais, il faut financer les routes, l'éducation et la santé, je vous rappelle.
On essaie de donner des emplois pour le moment.
Ok, vous avez créé 28...
On ne voit pas toujours les routes, c'est ça le problème, les hôpitaux, manuel.
Bon, laissons la politique de côté. Alors,
non, effectivement, en fait, vous devez créer une holding. Et effectivement, des destinations comme Maurice s'y prêtent hein, pour rester sur le continent africain. Effectivement, la holding vous permet de détenir les participations dans les différents véhicules que vous créez avec des nouveaux actionnaires, des nouveaux investisseurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la holding est fragilisée le jour où les sociétés filles ne se portent pas bien, hein, parce que tout remonte au niveau de la holding, et lorsqu'il faut recapitaliser, c'est la holding qui va remettre à chaque fois. Donc, de temps à autre, en guillemets, hein, on dit vous pouvez créer plusieurs véhicules, hein, et puis vous deux, votre holding investit lorsqu'elle veut dans certains véhicules, et puis vous venez aussi parfois en tant qu'individu dans certains véhicules. Donc, c'est le système de la holding qui généralement est utilisé. Effectivement, Maurice, c'est une destination qui continue de
vos objectifs.
Et puis aussi, l'avantage de Maurice, c'est que vous avez beaucoup de fonds d'investissement qui sont incorporés là-bas et qui eux-mêmes recherchent des investissements. D'accord. Donc, du coup, quand vous tombez sur un bon cabinet, je peux vous donner ça hors antenne, vous pouvez trouver du coup des investisseurs qui sont incorporés par ces cabinets et qui chargent des projets dans lesquels mettent de l'argent.
Fatou, Maguette, vos objectifs à terme avec Carapid Prestige, après les livraisons par drone à moyen terme, ça serait quoi? Je sais que vous avez des rêves qui ne s'arrêtent pas.
C'est s'expandre. On a déjà les pays limitrophes du Sénégal, un peu plus que limitrophes, on va rester pour le moment dans l'Afrique de l'Ouest, au Niamey. Donc ça c'est pour 2020, on aimerait bien, hein, soyons fous. Et à long terme, notre rêve aujourd'hui, on a le petit tableau dans nos locaux à Carapid depuis le début. Je te laisse dire, vas-y.
Ouais, c'est d'avoir notre propre compagnie aérienne, Carapid Prestige Airlines.
C'est voilà, très bien.
Ils ont commencé avec un scooter et ils visent une compagnie aérienne.
C'est génial.
Ça s'appelle un couple d'entrepreneurs. Merci à vous, Fatou. Alors, 29 ans, Maguette, 30 ans. Vous restez avec nous hein, pour la suite.
Oui, merci.
Des porteurs de projets.
Juste pour terminer, Manu, dans le modèle économique, n'hésitez pas à regarder des entreprises qui ont besoin d'externaliser toute leur logistique, tous leurs services livraison, comme par exemple une société agroalimentaire qui livre des engrais. Vous pouvez dire non, on s'occupe de la livraison et du coup, ils externalisent complètement cette activité. Et en fait, ça devient une entreprise à part entière pour vous avec ce gros client et vous pouvez le multiplier sur plein de projets.
C'est ce qu'on commence déjà à faire à Dakar, effectivement, avec pas mal de petites entreprises.
Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Le coach, évidemment, ne lâche pas l'affaire. Il est intéressé par votre dossier. Dans quelques instants, nous donnons la parole à Roland au 33 1 84 22 71 71. Le coach et les porteurs de projets chez 7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins.
C'est pas mal, 7 milliards. Ça fait beaucoup, quand même. Le monde, oui. 7 milliards.
Le monde est au jeune patron de l'Afrique qui gagne. On ne le dit jamais assez dans cette émission avec vous, le coach Didier Akouété. Nous accueillons Roland, 26 ans, Cotonou au Bénin. Bonjour Roland.
Bonjour Emmanuel, bonjour Didier.
Roland, se fait juste un petit coucou à l'antenne en direct et puis bien sûr on va rendre l'antenne pour le flash et avoir l'occasion de bien exposer votre projet. Mais vous êtes bachelier, ce qui est intéressant c'est que vous êtes autodidacte en design, graphisme, web, vous travaillez comme freelance et vous avez tout un projet de solution événementielle et divertissement à Cotonou. Vous adorez ça, tout ce qui est design graphisme.
Bien entendu, c'est ma passion depuis toujours et voilà, la passion a tous les défis et tous les récits.
Roland, on se quitte juste pour 3 minutes, je rends l'antenne pour le flash et bien sûr vous allez nous expliquer où en êtes-vous de votre projet, de votre création d'entreprise et surtout ce que vous allez proposer de plus par rapport aux dizaines d'agences de communication événementielle de la place, c'est-à-dire à Cotonou au Bénin. On se retrouve dans 3 minutes les voisins et les voisines, bien sûr vous nous appelez si vous souhaitez dialoguer avec le coach Didier Akouété à propos de votre petite entreprise en création, en gestation ou déjà lancée, 33 1 84 22 71 71 dans quelques instants, le journal sur RFI.
Sept milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Les JPAG, jeunes patrons de l'Afrique qui gagnent, sont à l'honneur dans l'émission chaque mois avec le coach Didier Akwété. Ils ont souvent moins de 30 ans, enfin pas Didier, hein, les jeunes, je voulais dire.
Je pensais que j'avais moins de 30 ans, mais c'est
en
une
tout
illusion.
Cas, ils ont une énergie à revendre et ça, c'est intéressant. Beaucoup de questions à poser pour surmonter les galères de l'entrepreneuriat. Vous êtes là pour les guider, pour les aider à réfléchir, pour prendre de la hauteur, pas facile aussi. Hein, quand
bah
on
oui,
a
après avoir galéré moi aussi,
dans le guidon.
Des années, dans des projets.
33 1 84 22 71 71, je vous redonne le numéro de téléphone, 33 1 84 22 71 71, c'est le numéro de téléphone du Standard. Camille Néron vous accueille, accueille aussi vos questions, vos projets, et puis si vous êtes prêt à passer l'antenne, vous pouvez tout à fait intervenir dans l'émission ou sinon tout simplement dans l'émission suivante, puisque c'est un rendez-vous régulier. Nous reprenons Roland qui était au téléphone avec nous juste avant le flash. Rebonjour Roland.
Bonjour Emmanuel. Bonjour Roland.
Alors en plus on a la chance d'avoir, vous avez des voisins, Fatou, Maguette de Dakar, qui sont de passage à Paris, qui sont dans le studio, qui ont lancé une entreprise de cars rapides, scooters, livraison en tout genre, et qui ont exposé leur projet. Peut-être vous les avez entendus dans la première partie de l'émission, et peut-être aussi ils auront envie d'intervenir, vous questionner, donner leur point de vue. Votre projet est très simple en fait, hein, c'est de la création de solutions événementielles, de divertissement. Vous êtes un vrai autodidacte en design, même si vous êtes bachelier. Ce que j'aimerais comprendre, moi, à la lecture de votre projet, je ne vois pas bien, en fait, qu'est-ce que vous avez de plus dans un environnement où, à Cotonou, Didier, je ne m'avance pas si je dis qu'il y a plein d'agences de communication événementielle, non ? Si demain, vous organisez Afrique Talent à Cotonou, vous avez l'embarras du choix, non ? Pour vous aider.
Généralement, on n'a pas de souci. Après, la qualité de service et autre chose, et l'accompagnement, l'expérience client, comme on dit, autre chose. C'est peut-être ce que Roland propose.
Qu'est-ce que vous allez avoir de plus, Roland, à Cotonou, par rapport à vos concurrents ?
Comme le disait le coach Didier tout à l'heure, il y a l'expérience client. Moi, je suis designer d'expérience utilisateur, donc il y a l'expérience client sur lequel nous mettons un accent particulier. Et après, il faut noter que nous ne réclamons pas étant une agence de communication événementielle. Nous sommes plutôt un atelier de création, de conception, de solutions pour les organisateurs d'événements afin de leur faciliter la vie. Donc, nous travaillons en collaboration et avec les agences événementielles et avec les particuliers qui veulent organiser des événements.
Par exemple, qu'est-ce que vous fournissez comme service, comme création visuelle ?
Nous ne faisons pas de création visuelle pour les organisateurs d'événements. Une des solutions dont je voudrais parler, par exemple, c'est Griller Salles. C'est un répertoire des salles, des espaces de fête, que ce soit conférences, un colloque, donc tout ce qui peut abriter une fête ou un événement à côté de nous, nous répertorions tout cela parce que la difficulté des gens pour s'informer, pour connaître la disponibilité d'une salle.
Ça, c'est ce que font toutes les agences de communication événementielle, hein, c'est de savoir quelles sont les salles disponibles pour organiser des événements.
En principe, c'est ce qu'une agence événementielle fait. Hein, et moi, je travaille sur un projet à Kigali actuellement et toutes les propositions comprennent déjà ça. Hein, c'est-à-dire quel type de salle on recherche. Bref, toute la panoplie de services.
Pour
qui
faire quoi, comment et quand. Bon, allez-y, Roland.
Ils ont forcément une base de données, mais au fur et à mesure, il y a de nouvelles salles qui viennent. Mais la difficulté ici, c'est qu'ils sont obligés de se déplacer, ils sont obligés peut-être d'appeler la salle pour vérifier la disponibilité. Mais nous, on leur offre une plateforme sur laquelle il y a déjà toutes les salles, que ce soit pour les professionnels que pour les particuliers. Donc, il y a toutes les salles sur la plateforme qui viennent juste vérifier si la salle désirée elle est en conformité avec leurs besoins du moment. Parce qu'il y a des événements qui viennent sur le coup, donc il faut trouver la salle qui convient dans un délai, délai rapide.
D'accord, alors là je comprends bien, effectivement on a tout à portée de clic, si je puis dire. Ce projet d'entreprise de communication événementielle très marqué web qui s'appellera Griot, un parrain, hein, je sais, un développeur web qui a travaillé pour Google Afrique, c'est Jimmy Kumako. Donc ça c'est important parce que Didier Akwété dit souvent quand vous lancez une boîte, il vous faut un parrain, quelqu'un, un mentor, hein, n'est-ce pas Didier ?
Bah c'est toujours bien d'être accompagné par quelqu'un qui a un peu d'expérience, qui vous ouvre aussi des portes, qui rassure le banquier, qui rassure les fournisseurs. C'est toujours bien.
Pour l'instant, dans le projet, il y a 5 personnes, il y a un développeur web, il y a un community manager, il y a des graphistes. Quelles sont exactement les difficultés sur lesquelles vous butez et où vous souhaitez dialoguer avec Didier ?
Les questions telles même comme ça, nous travaillons sur un projet qui est axé sur la communication. C'est comment est-ce que nous arrivons à vendre, parce que ce que nous vendons, c'est des salles. Ce n'est pas un produit sexy, mais voilà, c'est des salles. Et comment arriver à vendre, c'est comment arriver à bâtir une stratégie de communication efficace qui touche véritablement notre cœur de cible. C'est une des questions, par exemple, comment est-ce qu'on pourrait bâtir une stratégie de communication qui nous permette d'élargir notre clientèle. Voilà.
Alors, j'ai deux questions, Roland. Votre cible, c'est quoi votre cible et comment vous gagnez de l'argent?
La première question quant à la cible, c'est que nous travaillons avec certaines agences événementielles, mais il faut noter que le contexte béninois, il est un peu particulier parce que le Béninois Longa ne va pas forcément vers un organisateur d'événements pour une agence événementielle pour organiser un événement. Il le fait lui-même. Donc, à partir de ce moment, il a besoin des contacts, il a besoin de différents prestataires, d'être mis en contact avec différents prestataires. Donc, notre cœur de cible véritable, c'est le particulier qui veut organiser un événement, que ce soit le baptême de son enfant,
d'accord,
que ce soit son mariage.
Oui, son mariage. Donc, il passe par votre plateforme, mais comment, si tout est visible sur la plateforme, comment vous gagnez de l'argent, comme disait Didier?
Non, ce qu'on a fait derrière, c'est qu'on a négocié un partenariat avec les propriétaires de salles, ceux qui ont les salles à louer, à proposer à louer. Et nous, on se charge de tout ce qui est branding, tout ce qui est communication pour leurs salles, en contrepartie de quoi ils nous reversent une commission allant de 10 à 15%. Et nous, c'est ce que nous revendons derrière, c'est-à-dire on propose à celui qui veut louer la salle, à notre client, d'avoir 5% de moins, par exemple, et de garder nos 5% ou 8%. Donc, ça va entre 5% et 10% que nous gagnons sur chaque salle.
Qu'est-ce que vous pensez de ce modèle économique, Didier Akwété?
Non, c'est un modèle qui est courant. Et en fait, il se paye pas par le client utilisateur, mais par son client, lui, qui lui met à disposition le produit. Peut-être avant de parler communication, il me semble que... D'abord, le marché n'est pas très large non plus. Vous avez quelques salles, bien sûr, qui permettent d'organiser des événements, des particuliers, des professionnels. J'aurais eu tendance à penser que votre plateforme aurait une plus grande utilité si vous arrivez à aller au-delà des salles. C'est-à-dire, lorsque j'organise un événement, et vous l'avez dit, hein, vous êtes à cheval entre l'agence événementielle et puis le facilitateur. Hein. Quand vous dites « je vais faire le branding de la salle », là vous commencez déjà à rentrer dans la com, dans de l'événementiel. J'aurais tendance à dire, si j'organise un événement en tant que particulier ou entreprise, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'une salle, j'ai besoin peut-être d'un photographe, j'ai besoin d'un hélicoptère que Fatou et Maguette vont m'envoyer pour venir me chercher, ou de la limousine, j'ai besoin d'un reporter. Bref, il y a une série de prestations dont j'ai besoin. Et généralement, au-delà de la salle, qui est à mon avis le plus simple, on a du mal à trouver des autres prestataires de qualité avec le ratio qualité-prix qui correspond au service attendu. Donc j'aurais élargi l'offre telle que vous le faites actuellement au-delà de la salle, c'est-à-dire je peux vous proposer des salles à comparer, des photographes à comparer, des loueurs de voitures à comparer, des loueurs d'hélicoptères à comparer, ceux qui vont louer les chaises et assiettes, ceux qui vont décorer la salle. Donc j'ai une sorte de ce qu'on appelle un one-stop shop sur votre site où je compare,
il y a des agences qui font ça à côté de vous.
Peut-être pas en ligne, parce que l'agence va vous dire effectivement quel est votre budget, va aller vous chercher tout ça, mais eux, ce que je comprends, c'est que vous avez une offre en ligne qui se décline après en service potentiel avec des prestataires de services. Donc, si je peux venir sur votre site et me dire, quand je vais sur le site de Roland pour un événement, j'ai la panoplie des prestataires qui sont sur le site. En guillemets, j'ai des notes, comme quand je vais louer une chambre d'hôtel sur un site, on dit cet hôtel c'est 5 étoiles, celui-là c'est 3 étoiles, en termes de rapport. Donc, si vous voulez, vous avez une sorte de site de comparaison des prestations qui sont liées à un événement sur l'ensemble de la chaîne. Du coup, l'avantage, c'est que vous devenez, entre guillemets, incontournable, parce que vous devenez vraiment ce qu'on appelle one-stop shop, et puis vous gagnez de l'argent sur l'ensemble des prestataires qui délivre en fait les services permettant aux clients de vivre son expérience client. Je ne sais pas si c'est un peu
l'articulation. Roland, ça c'est l'évolution que vous prévoyez ou pas?
C'est exactement l'évolution qu'on prévoit. En fait, nous sommes en train d'y aller étape par étape parce qu'on a dans un premier temps créé un agenda numérique qui permet de communiquer autour des événements et ensuite on est en train de travailler actuellement sur le répertoire des salles et au fur et à mesure on y greffe d'autres services. Là, actuellement, quand les gens viennent chercher une salle, automatiquement, le replay commence à venir. Où ils nous demandent, vous avez un DJ. Voilà, nous, on leur met à disposition notre catalogue de DJ qui n'est pas forcément encore en ligne. Mais le travail, c'est de faire en sorte que quand quelqu'un pense événement...
À terme, vous allez proposer des barman, des voituriers, etc.
Exactement. Donc, tous les prestataires qui peuvent entrer en ligne de compte de l'organisation de son événement se trouvent sur une seule et même plateforme.
Ça fait du sens, je n'avais pas compris ça justement dans le projet. Donc l'hétérogénéité du service par rapport à tout ce que vos clients attendent vont vous permettre en fait d'avoir une offre de service assez complète et de gagner de l'argent. Alors par rapport à la communication, et c'est un thème qu'on va aborder justement dans notre dernière partie d'émission, vos cibles sont très larges. Donc vous faites des particuliers, vous faites des entreprises, vous faites des professionnels. Donc chaque cible... à un argumentaire, c'est l'entreprise, la grosse entreprise, c'est pas forcément le prix qui est son problème, c'est de trouver une salle de qualité, peut-être un peu chère, où elle est sûre que quand elle va inviter ses clients, c'est pas la salle du quartier, quoi. Alors que peut-être celui qui cherche une petite salle pour faire un petit événement, il cherche une petite salle de quartier, pas chère. Vous voyez, les besoins sont tellement différents. Alors,
on a dans le studio Fatou et Maguette qui ont commencé,
que la strate de com,
avant
en
leur
fait,
entreprise au Sénégal, ils étaient organisateurs de mariages en Bretagne, tous les deux, hein, Fatou et Maguette. Qu'est-ce que vous en pensez du projet de Roland à Cotonou?
Je pense que c'est pas mal de pouvoir mettre en ligne différentes salles, ce qui pourrait être...
Et vous, Maguette?
Oui, dans le secteur où nous avons travaillé, nous avons vu que le besoin, c'était successif, comme je disais. C'est-à-dire, dès qu'on a la salle, le premier réflexe, c'est on a besoin du DJ. Après, on a besoin des décorateurs.
Il ne faut plus lâcher le client,
voilà,
c'est ça.
Voilà, le client, dès qu'il arrive, voilà, il faut être un bon vendeur, il faut lui mettre tout ça en place. Comme ça, il cherche pas loin.
Vous avez un conseil à donner à Roland, vous qui avez déjà monté votre boîte depuis 2 ans à Dakar sur toute autre chose?
C'est de croire à sa boîte et de ne pas lâcher. Hein.
Ouais, faut être persévérant.
Il ne faut pas faire ses nuits maintenant.
Adressez-vous à Roland directement, Roland, c'est pas moi.
Il faut être persévérant. Il y a quelque chose qu'on se dit tout le temps, il faut être le premier levé. Et le dernier parti. Ça, vraiment, c'est une valeur sûre qu'il faut avoir avec soi quand on monte une entreprise.
Ouais, je confirme ce que Fatou dit. Il ne faut pas faire ses nuits, quoi.
On est bien parti avec ça. Bonne chance, Roland. Vous nous tenez au courant. 33 1 84 22 71 71. On donne la parole aux JPAG aujourd'hui. J'aime pas l'expression porteur de projet. Ce sont des JPAG, c'est les nouveaux jeunes patrons de l'Afrique qui gagnent. Et on leur donne la parole pour dialoguer avec le coach qui les conseille, Didier Akwété.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Avec le coach Didier Akwété.
33 1 84 22 71 71. Senabou, vous avez 30 ans. Vous êtes à Dakar ou à Paris en ce moment?
Je suis à Paris. Bonjour Emmanuel, bonjour Didier.
Bonjour Senabou.
Voilà, c'est le clan des Sénégalais aujourd'hui. Hein.
Ah
je sais pas
bah
ce
oui,
qui se passe.
Mafia,
bon, heureusement qu'on avait un voisin à Cotonou. Vous êtes doctorante en sociologie. Je ne sais pas si c'est le meilleur profil pour créer sa boîte, Didier Akwété. Vous avez parfois un a priori sur les études longues?
Ah non, pas du tout. C'est par rapport au marché de l'emploi. Mais il y a des sociologues qui créent leur entreprise et qui réussissent parfaitement bien. Et il y a des ouvriers qui créent leur entreprise et ça marche très bien. Donc il n'y a pas d'a priori négatif.
En tout cas, vous avez un projet qui est très intéressant parce que vous êtes engagé depuis longtemps pour le droit des femmes, pour les populations vulnérables, les enfants. Et votre projet, c'est de créer une web télévision pour la promotion des actions citoyennes. Ça s'appellera Moi Citoyenne. Citoyen, ça a germé dans votre tête, disons-le clairement, avec le mouvement Yon Amar à Dakar?
Merci Emmanuel. Ça n'a pas germé avec le mouvement Yon Amar. C'est parti d'un constat sur des travaux, des recherches que nous avons eu à faire sur le terrain, dont l'un des projets que nous avons eu à faire avec le mouvement Yon Amar dans les 14 régions du Sénégal. Nous sommes partis du constat selon lequel, pour impulser un changement de comportement, il est parfois important que les populations aient en face d'eux des exemples, des modèles et voient des actions qui marquent pour créer en fait une émulation auprès d'eux. Donc, le projet Moi Citoyen est une web TV qui communique sur des actions citoyennes au Sénégal et sur le continent africain en général. C'est une plateforme qui met en valeur des initiatives positives et innovantes de citoyens engagés ou organisations citoyennes porteurs de changements afin de créer cette émulation de la société, comme je l'ai tantôt dit, chez la jeunesse et promouvoir l'action et la participation citoyenne.
Mmh. On est dans la proposition positive hein, et pas dans la contestation. Et à l'heure actuelle, non, je dis ça parce qu'à l'origine, le mouvement Yonamark en 2011 a été quand même, s'est positionné dans la contestation d'abord pour bloquer un éventuel troisième mandat du président Ouad. Et puis ensuite, effectivement, il y a eu tout ce souffle citoyen qui a beaucoup mobilisé la jeunesse. Aujourd'hui, votre équipe a 3 personnes. Vous proposez donc de fabriquer des produits vidéo. Où est-ce que vous en êtes exactement? Et puis, sur quels sont vos freins à l'heure actuelle pour que ce projet Moi Citoyen débouche? Quel va être le statut, quelles sont vos questions au coach?
Oui, le mouvement Y en a marre était dans la contestation, mais aussi dans la proposition. Parce que le projet dont je parle était un projet de gouvernance participative qui proposait et montrait, incitait les jeunes à mettre la main dans la gestion de leur communauté. Alors, ce projet, comme vous l'avez dit, est une production de vidéos. Pour montrer, non seulement il y a un volet production de contenu, mais aussi avoir du contenu positif sur le continent africain. Ce sera donc une chaîne, une web TV avec des vidéos d'initiatives du Sénégal et aussi du continent africain. Le premier frein, c'est que ce projet prend beaucoup de temps. Il faut de la conception, il faut de la recherche et il faut de l'analyse. Le deuxième frein, serait aussi que ce projet demande des moyens à long terme. Alors, les questions que je voudrais poser au coach, disons, sont au nombre de 4. En quoi un projet qui allie le numérique à travers une web TV, par exemple, et la participation citoyenne peut intéresser la jeunesse africaine? Comment pérenniser un projet de la sorte, sachant qu'il est à but non lucratif? Et comment convaincre un partenaire d'y investir? Par ailleurs, comment faire pour trouver des partenaires tout en s'assurant de rester, non pas propriétaire, mais avoir la main mise sur le projet citoyen, tant sur les plans juridiques, stratégiques et pratiques? Et en fin de compte, quels conseils il donnerait à une personne comme moi qui souhaite allier son travail et un projet à but non lucratif?
Cette idée de chaîne web citoyenne pour mobiliser la jeunesse de façon positive, déjà sur le concept, sur le modèle économique pas simple, qu'est-ce que vous en pensez, Didier?
Non, c'est une très bonne idée. Si vous voulez, il y a un vrai besoin aujourd'hui.
Mais aujourd'hui, n'importe qui peut mettre en ligne des vidéos sur YouTube.
Alors, en fait, justement, c'est ce que j'allais lui dire. En fait, il faut qu'elle soit le YouTube africain des initiatives positives. Et en réalité, concentrez-vous sur la création d'un véhicule de diffusion. Parce que vous, ne vous embêtez pas à aller créer du contenu, parce qu'aujourd'hui, les jeunes créent du contenu n'importe où. Ils sont sur le terrain et vous n'allez jamais réussir à déployer des centaines de JRI, de journalistes sur le terrain. Donc, si vous arrivez à créer une plateforme de diffusion qui reçoit justement ce que les jeunes trouvent de bien, filment de bien, selon des standards hein, que vous, après vous acceptez de diffuser ou pas diffuser, là vous devenez un vrai support dédié à votre mission. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des vidéos qui vont venir du fin fond du Kassai, du fin fond de Kara au Togo, du fin fond de
c'est
de,
tout
de,
l'intérêt, de, c'est que ça soit panafricain. Hein, ça
Sali,
d'ailleurs,
c'est
bien l'objectif. Mais comment on finance tout ça?
Alors justement, elle, Sénabou, aujourd'hui, si vous voulez trouver des partenaires, vendez l'idée comme étant effectivement la plateforme de diffusion, ce que vous avez dit, des initiatives citoyennes positives. Et vous allez voir que des organisations comme celle de George Soros, bon, enfin, on l'aime pas, les Gates Foundation, etc., vous avez des grosses ONG ou même des fondations comme Dangote, comme Ecobank aujourd'hui, sur le continent qui veulent faire bien. Donc, qui veulent faire passer des messages positifs sur le continent. Ça, ce sont des donateurs potentiels qui peuvent financer, entre guillemets, le démarrage du projet. Mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est que plus vous aurez du contenu, plus vous aurez donc des visiteurs, on va appeler ça des youtubeurs, enfin je ne sais pas comment ça peut
être. Mais vous avez bien entendu, c'est là où vous disiez, mais je veux garder la main mise sur le concept. On voit bien qu'elle est assez méfiante
sur le
côté éthique, elle veut que son projet reste. C'est bien ça, Sénabou. Hein. Vous y avez pensé à ces fameuses fondations-là, j'imagine.
C'est incompatible.
Vous n'êtes pas né de la dernière pluie, comme on dit.
Sénabou, ce n'est pas incompatible. Ce que dit Emmanuel, c'est la gestion du contenu. Vous n'êtes pas en train de créer une société capitalistique avec ces fondations qui vont prendre des parts. Non, non, non. Ces fondations, on les aime, on les aime pas, elles ont des ressources et elles en donnent pour soutenir des causes, etc. Après, à vous de cibler ces fondations qui rentrent, en tout cas dont la mission rentre un peu dans la vision que vous avez du projet. Il ne s'agit pas de créer une société, vous leur donnez des parts. Non. Et deuxièmement, ce qui est important, c'est le contrôle de la ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'on vous dit « ma chaîne Sénabou Tube, Social Tube, voilà le type de contenu que nous allons diffuser », la ligne éditoriale, c'est ce qui est important pour vous de contrôler pour savoir ce qui est diffusé, ce qui passe sur cette chaîne. Donc, il y a une censure que vous faites qui permet de garder la mission qui est la vôtre. Ensuite, pour ne pas vous lier ad vitam aeternam à ces donateurs, plus vous aurez de visiteurs sur cette chaîne, plus vous allez avoir des gens qui vont vouloir avoir de la visibilité, donc des annonceurs qui vont venir. Vous pouvez même après faire des accès payants pour certaines vidéos qui sont en ligne, etc. Donc, vous pourrez ensuite générer des revenus le jour où votre chaîne est installée, que vous avez des millions de visiteurs qui viennent regarder tout ce qui est posté en ligne. Et là, vous pouvez générer des revenus que vous dédiez justement au fonctionnement et au développement de votre Web TV. Mais je pense que c'est un très beau projet qui peut cristalliser un certain nombre de besoins
à retenir,
aussi,
hein.
Et de frustrations aujourd'hui.
Moi, citoyen, c'est signé Sénabou et à mon avis, on en entendra parler. Sénabou, 30 ans, doctorante en sociologie qui est à Dakar. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Sénabou.
Je vous prie, Emmanuel. Merci à vous. Merci
à bientôt, Sénabou. Merci.
À très bientôt.
Didier Akwété, dans quelques minutes, même pas, à peine une minute, c'est le moment des conseils du coach et de la chronique Business Plan avec aujourd'hui la stratégie de communication. On prend son cahier et on prend des notes, les jeunes.
7 milliards de voisins.
C'est sur RFI.
La chronique Business Plan de Didier Akwété, chaque mois, que tout le monde attend. Le business plan, vous n'êtes grosso modo jamais satisfait des business plans que vous recevez. Vous dites toujours, c'est pas bien ficelé, il manque ci, il manque ça.
Parfois je dis, c'est très bien fait, Emmanuel. Vous me donnez le mauvais rôle à chaque fois. Fatou Maguette, est-ce que je suis pas sympathique?
Bon, alors, aujourd'hui, vous souhaitez insister sur la stratégie de communication. Pourquoi?
Parce qu'on en parle beaucoup, et d'ailleurs, Roland aussi nous en a parlé. Et c'est un élément important, en fait, du business plan. Parce que c'est vrai, vous pouvez avoir un beau projet, mais comment le vendre, c'est tout aussi important que le projet ou le produit. Et malheureusement, quand on parle communication, tout le monde se dit « Ah, je vais passer sur les réseaux sociaux, je vais passer à la télévision pour parler de mon produit. »
Oui, mais enfin, quelquefois, on ne comprend rien de ce qu'ils nous disent, hein, les jeunes, quand ils racontent leur projet, on est d'accord. Hein,
en plus,
on
ne
voit pas bien où ils veulent en venir.
Non, en plus, et en réalité, la stratégie de communication, c'est une composante essentielle du projet, donc du business plan, parce que c'est simplement ce qui va raconter l'histoire du produit à qui vous voulez raconter l'histoire. Donc ça veut dire que la communication est le pendant du positionnement que vous avez choisi pour votre produit. Nous avons parlé positionnement il n'y a pas longtemps. Et donc ça veut dire que vous devez d'abord définir à qui le produit s'adresse. C'est-à-dire, quelle est votre cible? Est-ce que je suis en train de parler à des clients? Mais quand je dis client, parfois on passe une pub sur une chaîne de télévision, ça touche 10 millions de personnes, mais en fait votre cible c'est peut-être 500 personnes sur cette chaîne. Donc dans la cible de clients, vous devez segmenter pour savoir si vos clients ce sont des jeunes de 16 à 20 ans, ou plutôt de 20 à 25 ans, ou de 25 à 30 ans, qui habitent en ville, qui habitent en campagne, qui ont une voiture, etc. Donc la segmentation de la cible est extrêmement importante. En dehors du client, est-ce que vous adressez peut-être à vos futurs distributeurs? Parce que vous lancez un produit, mais qui ne peut vivre que si vous avez des distributeurs qui le référencent. Donc, est-ce que je suis en train de vouloir communiquer à des distributeurs qui vont référencer mon produit? Est-ce que je suis en train de vouloir communiquer avec ce qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs, donc qui vont parler de mon produit, qui vont porter ma casquette, le t-shirt que je lance? Et donc, c'est très important de définir la cible ou les cibles auxquelles nous allons communiquer, nous allons envoyer le message. Deuxièmement, quel est l'objectif du message qu'on veut envoyer? Est-ce que l'objectif, comme je l'ai dit, c'est de vendre le produit? c'est de fidéliser quelqu'un qui va acheter une fois, c'est de créer une communauté autour de ce produit, c'est de faire référencer le produit, etc. Donc, l'objectif est extrêmement important quand on a défini la cible. Et une fois qu'on a défini tout ça, quel est le message qu'on veut faire passer ? Le message, si je m'adresse à un jeune de 18 ou 20 ans avec un produit branché, je ne vais pas mettre en costume cravate pour le vendre, le jeune ne va pas se reconnaître. Si c'est un produit qui est lié, je sais pas, à la recherche scientifique, quelque chose de sérieux, et je m'adresse à des chercheurs, à des scientifiques, pareil, je ne vais pas avoir un jean troué. Bref, le message n'est pas crédible. Et donc, le contenu du message, le slogan, le packaging, les couleurs, tout ça sont des éléments extrêmement importants dans le message. Et puis, enfin, les supports qu'on va choisir. Ça sert à rien d'aller simplement sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, il y a boire et à manger.
La radio, il y a que ça de vrai.
Il y a n'importe quoi, allez. Quand c'est RFI, effectivement.
Donc, mais cible, les supports, objectif, c'est très important. Message et support.
Et les supports.
Quatre choses à retenir.
Que ce soit la radio, la télé, les réseaux sociaux, l'affichage, ce qu'on appelle la PLV publicité sur lieu de vente, etc. Donc, ces quatre éléments sont extrêmement importants quand on parle de stratégie de communication, quel que soit le produit qu'on lance. Et je crois que le succès de Maguette et Fatou sont liés à ça. Vous avez défini une bonne stratégie de com, je crois.
Oui, effectivement, on est très branchés ouais. Communication. On a pu nous voir un peu partout. D'ailleurs, dans des clips avec Youssou N'Dour,
leur histoire, leur couple.
Voilà, entreprise familiale, entreprise de couple. Didier, on a bien retenu tous vos conseils. Évidemment, à retrouver en vidéo Didier Akwété sur la page des 7 milliards de voisins, sur le site rfi.fr, grâce à Sinatou Saka. Merci à vous tous, merci à toute l'équipe, Camille Nérand, Olivier Roux. Lundi, 7 milliards de voisins, je laisse le micro à Charlie Dupio et à vous aussi, les voisins, avec cette question. Comment se portent les musulmans de France aujourd'hui? Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. À lundi, 7 milliards de voisins sur RFI.